Les Sogdiens excellent au commerce et aiment le gain. Dès qu'un homme a 20 ans, il s'en va dans les royaumes voisins. Partout où on peut gagner, ils sont allés. Extrait des annales impériales chinoises de la dynastie des Tang.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Nombre des auditeurs et des auditrices des fenêtres d'histoire ont sans doute entendu parler de la bataille de Poitiers en 732, où Charles Martel a arrêté les Arabes. En fait, cette histoire est très importante effectivement dans la mémoire collective. Elle a d'ailleurs été surdimensionnée, mais elle est restée pendant très longtemps, c'est sans doute un peu moins vrai aujourd'hui, un repère que l'on faisait étudier aux enfants dans les écoles. Mais quelques années plus tard, de l'autre côté du monde, aux confins des mondes arabes et chinois, il y a eu une deuxième grande bataille et qui pèse plus lourd sans doute que celle de Poitiers. C'est la bataille de Talas en juillet 751. En effet, il y a à ce moment-là un grand conflit qui va opposer la dynastie arabe des Abbassides, qui vient d'arriver au pouvoir, à la dynastie chinoise des Tang. Nous avons des chroniques et des historiens des deux côtés qui ont écrit sur la bataille, mais de manière tardive. Ainsi, le grand historien arabe Ibn al-Athir, qui a écrit au XIIIe siècle sa Somme des histoires, où il relate la bataille de Talas. Il est né à Mossoul, il était contemporain de Saladin, et il vit au moment où, après la chute de Bagdad, eh bien, le Caire a supplanté cette ville irakienne comme centre politique, culturel, cultuel du monde musulman. De l'autre côté, il y a rédigé en 941 une chronique chinoise intitulée « L'ancien livre des Tang » qui parle de la bataille de Talas. Celle-ci, si on se réfère au calendrier musulman, a lieu en l'an 133 de l'Hégire. Elle a lieu dans ce que les anciens appelaient la Transoxiane, c'est-à-dire l'équivalent de notre Kazakhstan. C'est la route de la soie qui achemine non seulement la soie de Chine jusqu'au Moyen-Orient et jusqu'en Europe, mais qui est importante également pour des produits comme la jade, l'ambre, la porcelaine, mais également des chevaux et des esclaves. Et il y a la rivière Talas qui va voir s'affronter les armées de l'Empire abbasside et de l'Empire des Tang. Déjà, les chroniques ne sont pas d'accord sur les effectifs. Parce que, d'après les chroniques chinoises, l'armée impériale des Tang ne compte que 10 000 hommes, aidés par environ 20 000 mercenaires d'origine turque, les Karlouks. Et face à elle, il y aurait eu 200 000 combattants. Inversement, les sources arabes affirment l'inverse. Les Chinois et les Karlouks auraient été 5 fois plus nombreux, estimés à 150 000 personnes, et par contre, les troupes arabes n'auraient été que 62 000 soldats. Donc véritablement, nous avons affaire à une querelle des chiffres, mais ça, nous le connaissons encore aujourd'hui pour nos manifestations. Il y a également une autre chose à remarquer, c'est que ce sont des troupes extrêmement diverses. Vous n'avez pas arabes contre chinois, c'est moins simple. Puisque, je l'ai indiqué à l'instant, il y a des mercenaires turcs, et puis il y a également des Ouïghours, population d'origine d'Asie, chinoise, et qui participent également au combat, sans doute du côté des Tang. Donc nous avons affaire à des armées qui n'ont pas forcément une homogénéité ethnique, mais qui sont au service de deux énormes puissances que sont l'Empire de Chine et l'Empire arabe. Les combats ont duré environ 5 jours. Nous ne connaissons pas avec exactitude le déroulement de la bataille, mais ce qui apparaît évident, c'est qu'un élément décisif a eu lieu au moment de cette confrontation, le retournement d'alliance des mercenaires Karluk. Effectivement, ces mercenaires d'origine turcophone, eh bien, passent dans le camp musulman, rendant la déroute des troupes Tang inévitable. Les troupes de ceux-ci sont prises en tenaille entre l'armée musulmane d'une part et puis les mercenaires qui venaient d'abandonner ceux qui les payaient. Ce retournement est dû sans doute à un phénomène de conversion religieuse. Il est fort probable que les Karluk étaient en fait depuis quelque temps travaillés par des missionnaires musulmans et qu'ils avaient choisi d'opter pour l'islam, et qu'ils avaient estimé qu'il leur fallait plutôt combattre du côté des Arabes que du côté des Chinois. Cette bataille a eu effectivement des conséquences, puisque on assiste également aux confins de l'Empire de Chine, dans la région du Xinjiang, à une conversion également des Ouïghours, qui vont rejoindre le monde sunnite et qui d'ailleurs aujourd'hui subissent des persécutions extrêmement fortes dans le cadre de la Chine communiste. Alors les conséquences, elles ne sont pas négligeables. D'abord, c'est vrai qu'elles marquent indéniablement une défaite pour l'Empire de Chine qui tend à se replier un peu sur lui-même et qui plus est, les Ouïghours, par exemple, vont, après la victoire arabe de Talas, refuser de payer le tribut à l'empereur de Chine. Autre élément, c'est qu'il y a une consolidation de la toute nouvelle dynastie. En effet, en 750 avait eu lieu ce qu'on pourrait appeler un coup d'État qui avait destitué la dynastie des Omeyyades, avec force, violence, et un nouvel État s'était constitué avec les Abbassides qui avaient fondé en 762 une nouvelle capitale, Bagdad. Et le pouvoir s'était déplacé de Damas à Bagdad. Et il est évident que quelques mois à peine après l'avènement de la nouvelle dynastie, cette grande empire, puisque là, l'empire arabe atteint son maximum, eh bien, était d'autant plus légitimé par la victoire de Talas. Mais il convient aussi de remarquer que les Abbassides n'ont pas cherché à pousser leur avantage, parce qu'ils ont été rapidement conscients qu'ils ne pourraient pas aller au-delà, parce que l'empire était déjà suffisamment dilaté entre la Méditerranée, le Moyen-Orient, à partir de là, jusqu'aux confins du monde chinois. Il ne fallait pas aller au-delà, et les Abbassides ont eu l'intelligence de le comprendre. Donc, on est à une apogée territoriale, mais qui n'ira pas plus loin. Qui plus est, nous avons à ce moment-là un empire arabe qui va atteindre une puissance politique et administrative extrêmement importante, parce que l'empire abbasside, outre une capitale brillante, une vie culturelle extraordinaire, eh bien, avait constitué, de manière beaucoup plus développée que les monarchies occidentales de l'époque, une chancellerie, une fiscalité, un réseau routier, un système administratif qui, véritablement, faisait face aux monarchies de l'Occident et de l'Empire byzantin lui-même, une véritable grande puissance en cet empire abbasside. Mais la question de la poursuite d'un empire abbasside s'est progressivement posée. Parce que finalement, la force abbasside s'est retrouvée au milieu du XIIIe siècle face à une puissance qui allait tout emporter sur son passage. Parce que les invasions mongoles qui ont véritablement marqué les contemporains du XIIIe siècle, qui ont été frappés, impressionnés et sans doute en partie effrayés par ces peuples nomades qui formaient le plus grand empire que le monde n'a jamais connu, eh bien l'empire abbasside s'est abattu devant la puissance mongole. En effet, en 1258, la grande capitale Bagdad était ravagée après un siège de quelques semaines par la dynastie mongole. 750, les Omeyyades, 1258, les Abbassides, un autre épisode de l'histoire de la puissance arabe allait s'ouvrir, en particulier avec les Mamelouks d'Égypte.